Radio Notre-Dame, la vie prend un sens.
Le grand témoin, Louis Dauphren.
Alors que se déroule en Allemagne le procès d'Oskar Gröning, le comptable du camp d'Auschwitz, que l'on célèbre demain le 100e anniversaire du génocide arménien, comment envisager la question du pardon ? Elle est évidemment fondamentale, comme on l'imagine, chez tous ceux qui nous écoutent en ce moment. À quoi ça sert d'ailleurs de pardonner ? Et quand les bourreaux affirment qu'ils ont eu raison et qu'ils ne regrettent rien, que fait-on ? Marie-Pierre Samitier, journaliste à France 2, s'interroge au fil d'une réflexion qui l'a amenée à découvrir les sources du pardon. On en parlera également, puisque ça a été aussi une découverte pour elle. Bourreau et survivant, ça s'appelle. C'est aux éditions Le Mieux. Nous avons introduit la notion du pardon pour se défaire du passé. C'est ce que vous estimez, Marie-Pierre Sémitier. Oui. Et vous posez une question fondamentale. Faut-il tout pardonner ? Alors, il y a aussi une autre actualité dont on parlera. C'est la question de l'attentat déjoué, du climat de tension, voire de guerre que l'on connaît aujourd'hui. La guerre, ce n'est pas très propice au pardon quand même. C'est un peu dérangeant comme idée, non ?
Oui, c'est vrai, la guerre n'est pas propice au pardon. C'est après qu'on se pose la question du pardon. Quand, en temps de guerre, c'est la cruauté qui règne, c'est la barbarie. Le pardon, c'est ce qui vient après, c'est-à-dire la question de la repentance, de l'attitude qu'on a envers les victimes, ou en tout cas, quand on est victime, l'attente par rapport au bourreau, c'est ça.
Mais pourquoi est-ce que vous êtes mal à l'aise avec cette notion de pardon ?
En fait, parce qu'on a aujourd'hui une fausse notion du pardon que j'avais moi avant d'enquêter. Et c'est en rencontrant des victimes de la Shoah tout à fait, non pas par hasard, mais dans le cadre du journal télévisé, que je me suis posé cette question.
Donc de France 2 ?
De France 2. C'est ces personnes que j'ai interviewées et qui sont des survivantes, qui venaient d'Auschwitz, qui sont des rescapés, des enfants d'Izieux, qui venaient des camps de concentration de Dachau et autres, justement, m'ont parlé du pardon, m'ont dit ce qu'elles pensaient du pardon. Et ça a été une découverte après, parce qu'elles attendent quelque chose des bourreaux qu'elles n'ont jamais eu. D'ailleurs, cette attente n'a jamais été honorée. Et aujourd'hui, encore, donc, rien n'est pardonné parce qu'il n'y a pas eu d'échange. Et j'ignorais, en fait, tout du pardon. Je restais sur une idée du pardon chrétienne, inspirée de Saint-Augustin, d'Augustin, de Dostoïevski. J'en parle dans Les Frères Karamazov. Je cite Dostoïevski très précisément. C'est cette idée chrétienne du pardon aujourd'hui héritée de ce christianisme-là. Et le pardon, ce n'est pas ça. Il faut retourner aux sources du pardon et comprendre ce que c'est.
Le pardon chrétien, si je traduis, n'est pas le pardon juif.
C'est un c'est un pardon dévié. C'est un pardon dévié, voilà. C'est une
Vous
évolution.
Allez nous dire la différence.
Oui, bien sûr. Le pardon juif, en fait, il est lié au temps. Il est lié à une évolution et il y a plusieurs phases dans le pardon juif. Et donc, cette temporalité, elle est essentielle. On ne l'a pas dans le christianisme de la même façon. Je parle de grâce à bon marché dans le livre d'ailleurs, parce que c'est un pardon beaucoup plus facile entre guillemets. Le pardon juif, il y a trois phases que j'ai expliquées dans le livre.
La teshuva.
C'est la teshuva, c'est-à-dire ce qui signifie revient, le retour. Et ça a un sens physique. Alors je l'explique parce que je voulais être très précise.
Allez-y, vous entrez dans le dur.
Et j'entre dans le dur.
Mais on y va directement.
En fait, c'est lié au retour du peuple d'Israël à Eretz, à la terre. Donc ça a un sens d'abord spirituel. C'est une conversion, mais une conversion, un retour et un retour du cœur. Alors je rejoins le christianisme là parce que il y a le baptiste qui dit au Jourdain « Convertissez-vous, car Dieu veut faire de ces pierres des enfants d'Abraham. » Il montre que la conversion peut changer la personne. Donc dans le christianisme, on a quand même gardé cette idée de conversion et de changement, de retour, mais
de changement libérateur.
De changement libérateur. Mmh. Mais quand on va à la source même du pardon, en fait, c'est raconté dans un midrash en fait du 1er siècle. Mmh. C'est une prise de conscience avec des aveux. C'est-à-dire que ça se passe avec le grand prêtre. Un homme qui demande le pardon va apporter sa plus belle bête. Et là, on est vraiment aux racines même du pardon. Il apporte sa plus belle bête du troupeau. Elle doit être parfaite, pas un défaut, pas une tache. La bête va être sacrifiée dans une deuxième étape. Et le sang va jaillir. Ça se passe dans le grand temple, à Jérusalem, dans la ville sainte. Et là, l'homme qui a commis la faute prend conscience en voyant le sang qu'il n'aurait pas dû faire de mal à l'autre, il se met à la place de l'autre. par la matérialité de la bête qu'on sacrifie. Et la troisième phase, c'est dans le judaïsme la repentance, c'est-à-dire que l'homme va tenter de réparer sa faute, c'est-à-dire de changer. La teshuva, c'est ça, c'est le changement, c'est la volonté de réparer et la conscience du mal qui a été commis.
Ça existe aussi dans le christianisme, Marie-Pierre Samitier, la repentance, le fait de devoir réparer le mal qu'on a fait, c'est même le propre de ce qui suit l'absolution que vous avez reçue en
c'est
confession.
L'absolution. Non, parce que l'absolution peut être donnée simplement en ayant avoué la faute. C'est l'aveu, c'est au sens augustinien. C'est l'aveu, c'est pas le changement complet d'une personne. C'est uniquement le fait de prononcer les mots. Et l'absolution donnée par le prêtre fait qu'on se sent lavé de ses péchés. Et c'est plus simple. On n'est plus dans cette symbolique.
Il y a un caractère, si je vous suis sur ce point-là, qui est un point spirituel, un point de distinction ou de convergence avec la foi chrétienne, parce qu'il y a des points communs et puis des points de divergence. Ça va au-delà. Le pardon, si je comprends bien, il y a une matérialité.
Absolument.
Il y a un caractère public.
Un caractère public.
Donc c'est ce que vous souhaiteriez.
La faute est commise et donc elle est expiée en public et avec le grand prêtre.
Mais alors si je reviens à l'affaire Gröning dont vous allez parler, que vous avez suivi, est-ce qu'il y a ce caractère-là ? Est-ce que le fait de demander pardon en public à un procès correspond à ce que vous attendriez, vous ?
Alors oui
dans
et non.
Dans le sens de votre conception du pardon.
Pas tout à fait, puisqu'en fait, et c'est ce que disent les victimes, j'ai été interviewée là par le Nouvel Observateur aussi, et sur le Nouvel Obs le plus, c'est justement la réaction de nombreux lecteurs. Gröning le fait très tardivement, il n'y a pas eu de changement. Ce qu'il dit, c'est que c'est un peu facile au bout de 80 ans ou 70 ans, de dire voilà, je demande pardon, d'autant que Gröning avait les fois précédentes, il était déjà passé devant les magistrats en 1985, en 2003, il n'avait pas fait de demande de pardon, il avait persévéré dans.
Et qu'est-ce qu'il peut faire
volonté.
De plus ? Pardonnez-moi pour le coup.
Mais
qu'est-ce qu'il peut faire de plus ?
Qu'est-ce qu'il peut faire de plus ? Justement, il aurait dû changer d'attitude, c'est-à-dire s'impliquer, changer au sens où, par exemple, le fils de Göring est devenu juif. Alors je ne demande pas à Gröning de devenir juif, pas du tout. Mais en revanche, c'est une attitude de transmission, d'explication, de même que les victimes vont dans les lycées, parfois même dans des lycées à forte population musulmane, avec des difficultés, je le raconte dans le livre avec Sarah Montard, de même que donc, eh bien, il aurait peut-être dû effectivement aller à la rencontre des gens en Allemagne, des jeunes, dans
témoigner,
les lycées,
en fait.
témoigner et les convaincre. Une repentance, c'est ça, c'est changer d'attitude. C'est dire, nous avons eu tort, nous avons été nazis, nous avons été bourreaux. Moi, j'ai été comptable à Auschwitz. Je récupérais l'argent. Je l'envoyais d'ailleurs pour le Reich. J'ai commis des fautes. J'ai cru à la mort totale. J'ai voulu détruire des gens, des enfants, des bébés. Il le raconte d'ailleurs au cours de l'audience, vous avez vu. Il dit, bon, j'ai été choqué, c'est vrai. Il y avait un bébé qui a été écrasé contre un wagon. J'ai trouvé ça pas très bien. Mais c'est tout. Il n'y a pas eu de changement d'attitude. Le pardon, c'est ça. C'est quand on change. C'est la teshuva. C'est une attitude qui implique de convaincre les autres de prendre un bâton de pèlerin et d'agir. Voilà.
Marie-Pierre Samitier, c'est à Mantes-la-Jolie que vous voyez le jour. Mais vos racines sont multiples. Un grand-père maternel juif alsacien, un grand-père paternel viticulteur dans le Midi Rouge, très engagé dans les réseaux d'entraide et très laïque, une grand-mère très croyante, influencée par le catharisme. C'est assez rare ça maintenant aujourd'hui.
Oui, c'est ça. On vient d'un village pour mes parents, pour mon père, qui s'appelle Roubia. Et mon père est allé au lycée de Carcassonne. Il a eu comme professeur René Nelly, qui est un grand spécialiste du catharisme. Et on peut dire que le catharisme a été la première Shoah, on peut le dire. On a Simon de Montfort, ça a été dit dans la bouche de Simon de Montfort, même s'il existe rien débattre là-dessus. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. On a voulu tuer les parfaits. Ça a été une période très, très importante pour l'Église, d'ailleurs. Et aujourd'hui, je reste influencée par le catharisme. C'est un mouvement de l'Église très particulier qui a voulu retourner aux sources. Également.
Mais je vais être dérangeant pour vous, Marie-Pierre Samitier, mais est-ce que le catharisme n'était pas une forme de nazisme de l'époque ?
Pourquoi ? Dites-vous ça,
les nazis se sont rendus sur place dans le pays Qatar parce qu'ils y trouvaient une inspiration.
les...
Vous avez eu des hiérarques nazis qui se sont rendus sur place.
Hein. Non, ça n'a rien à voir. Non. Franchement, le catharisme a été un mouvement dans l'Église qui a voulu retourner à la source. Ça n'a rien à voir. Effectivement, il y a eu ça, c'est tout à fait juste. Mais je crois que
C'est un autre débat.
C'est un autre débat.
Un père proche de Gérard Larcher et de Christine Boutin.
Ils étaient assez proches à un moment. Ils ont d'ailleurs dans les Yvelines, dans ces années 80, ils ont pour certains, pas Gérard Larcher, mais Christine Boutin et d'autres ont créé au sein du Conseil général des Yvelines un mouvement apparenté UMP dont mon père faisait partie avec Monsieur Amouroux qui était le maire d'Épône, donc et conseiller général de ce canton du fin fond des Yvelines.
Donc oui. Un peu de politique avant de devenir...
J'ai grandi dans un monde politique. Mon père a monté la Maison des Jeunes et de la Culture. Il était très inspiré par Malraux. Il a voulu donner de la culture à tous. Donc c'était un homme très impliqué politiquement.
Ne le racontez pas trop parce que Marion va le dire dans un instant, dans quelques secondes. C'est d'ailleurs là-bas, c'est en Algérie, parce que votre père avait combattu en Algérie, qu'il a rencontré votre mère, issue d'une famille de pieds noirs, Marion Duchesne.
Il y a toujours eu dans la famille un engagement pour le collectif, raconte Marie-Pierre Samitier. J'ai grandi dans un monde associatif, sport, loisirs, j'ai tout essayé au sein des maisons des jeunes et de la culture. Le monde universitaire et la science politique d'un côté, le journalisme de l'autre. Marie-Pierre Samitier a longtemps hésité. Diplômée en droit, en 1985, elle part en Algérie pour enseigner. Clin d'œil de la vie. J'ai été affectée à Sidi Bel Abbès, la ville d'origine de ma grand-mère maternelle. De retour en France, c'est le hasard qui l'amène dans les locaux de RMC où elle réalise ses premiers grands reportages. Elle couvre notamment le conflit en Bosnie. Dans les années 90, Marie-Pierre Samitier suit les dossiers de société avant de rejoindre France 2 et de se spécialiser dans la santé. Avec Internet et la télé low cost, on reste bien souvent dans la superficialité et on zappe. C'est frustrant, reconnaît la journaliste. La pensée est assez monolithique en France. Il n'y a pas suffisamment d'interdisciplinarité et il y a trop de prêt-à-penser. Passionnée par Hannah Arendt et Ferdinand Tognies, sociologue allemand, Marie-Pierre Samitier s'interroge sur le phénomène de l'autodétermination, de l'imitation, sur la conscience politique, le comportement de l'homme par rapport à sa communauté, d'où son enquête sur le pardon, lâcheté, conviction, absence de volonté. J'ai voulu comprendre ce mécanisme humain qui fait que l'on dit non à un système ou qu'au contraire, on se dit rouage du système, explique la journaliste. Et Marie-Pierre Samitier de s'interroger sur le nombre croissant de conversions à l'islam. Quand il n'y a pas de modèle convaincant, on se tourne vers d'autres schémas comme le religieux ou le communautarisme et l'individu peut être aspiré. Marie-Pierre Samitier dit ne pas avoir la foi, mais elle regrette que l'on ait oublié de transmettre l'identité judéo-chrétienne. « Je suis très touchée par le visage de l'autre », conclut-elle. « Pour moi, c'est là qu'est la figure de Dieu. »
Alors, sur ce dernier point, ou du moins le point où Marion Duchesne dit que vous n'avez pas la foi, mais vous regrettez que l'on ait oublié de transmettre l'identité judéo-chrétienne, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Parce que si on veut que l'idée du pardon l'emporte dans un monde barbare, il faut bien transmettre un héritage. Il faut bien transmettre quelque chose qui est charrié par le temps, des leçons de l'histoire. C'est ce dont peut-être on souffre aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas... Si on veut transmettre un héritage, c'est bien parce qu'on croit en lui. Donc il y a un minimum de foi qui est requise, non ?
Oui, mais ça peut être...
Si on ne croit plus en rien, pourquoi pardonner ?
On n'est pas obligé de croire. Alors, qu'est-ce que la foi ? C'est en fait être... c'est quelqu'un qui nous parle, ou c'est quelque chose qui nous parle, la foi. Et on peut avoir foi dans nos institutions républicaines, foi dans la loi, parce que justement elle nous protège, le droit doit protéger les plus faibles. C'est le cas dans les États démocratiques. On peut avoir foi donc dans ces principes et ces valeurs-là. Ça ne veut pas dire qu'on a forcément la foi en Dieu. Vous parlez effectivement...
Mais c'est contingent.
C'est contingent. Mais vous parlez de la contradiction. Il n'y a pas vraiment de contradiction. Il y a le fait que nous avons hérité de valeurs, que nous connaissons mal, et c'est pour ça que j'ai mené cette enquête sur ce qu'est le pardon, en comprenant bien qu'il y a une temporalité, il y a des étapes à ne pas effacer, à bien comprendre. Et donc moi, je considère que ces valeurs dont nous avons hérité, nous devons les comprendre, en comprendre réellement le sens, parce qu'avec la superficialité, en fait, Les gens ne savent pas ce dont ils parlent et tout s'efface facilement. Et je crois aussi à la tradition orale que nous avons perdue en partie. Alors je ne suis pas passéiste, hein, je suis une grande optimiste, mais que nous devrions retrouver parce que cette tradition orale qui était transmise par les rabbins et par les prêtres, qui faisait qu'on échangeait, qu'on débattait, qu'on parlait, issue de la tradition du livre hein, malgré tout, mais qui est une tradition orale fortement ancrée en nous, qui a donné des tribuns politiques, des hommes qui se sont impliqués, des gens comme Jules Ferry, des gens comme Blum, comme tous les hommes comme De Gaulle. Toute cette tradition-là orale, il faut la perpétuer. Si l'on ne se parle plus, si on ne transmet pas ces valeurs, eh bien nous les perdrons parce que d'autres plus fortes prendront leur place.
Alors justement, c'est ce qu'il faut éviter. Gérard Leclerc nous parlera tout à l'heure de cet attentat déjoué. Marie-Pierre Samitier, oui. Une personne jeune, apparemment bien intégrée, qui disait son entourage était droite, semble-t-il.
Ce que dit sa sœur.
Voilà,
oui.
Ce que dit sa sœur. Quelle est, vous, votre appréciation de ce phénomène-là? Parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de règles collectives à partir du moment où personne n'est capable de rompre à ce point le pacte républicain, de vivre ensemble.
Oui, il n'a pas été convaincu par les valeurs et même au-delà, il a été
il veut les détruire.
Converti par d'autres qui, effectivement, il veut les détruire et par d'autres qui ont été plus forts que les valeurs républicaines ou les valeurs issues de sa famille. Donc ça veut dire que nous avons perdu, nous ne savons plus transmettre et que le phénomène d'imitation et de modèle ne marche plus. Alors, on l'entend dire, and so what, derrière, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il va falloir justement prendre conscience de ça et que les gens s'activent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout attendre de l'État-providence. À un moment donné, il faut aussi pouvoir prendre en charge des gens, peut-être s'investir davantage. On parlait du milieu associatif, des maisons des jeunes et de la culture. Il y a eu toutes ces années 70, ces années 80. Moi, j'étais petite, mais ça a été des mouvements d'intégration où on voulait effectivement que la culture soit accessible à tous. Là, la culture, où est-ce qu'elle est trouvée? En bas des immeubles où se trouvent des mosquées qui parfois enrôlent les jeunes, pas toutes, il faut bien le dire, mais parfois enrôlent les jeunes dans des guerres qui les conduisent au djihadisme en Syrie. Et ça, c'est quelque chose que nous devons absolument contrer. Si on ne fait rien, si on ne reprend pas en main les choses, ça va aller beaucoup plus vite qu'on ne croit. On déjoue un attentat, très bien, mais est-ce qu'il n'y en aura pas d'autres? Moi, je crois qu'il faut comprendre qu'on est en guerre et se donner les moyens de faire cette guerre. Mais tout le monde est concerné. Chacun est responsable. Hein, c'est une guerre. C'est ce qu'a dit Melvals le 15 janvier 2015, après l'attentat Charlie. C'est en fait une guerre que mène la France contre le djihadisme.
Bon, maintenant, cette guerre, il faut un esprit pour la mener, il faut un certain nombre de dispositions spirituelles.
Alors, il faut des dispositions spirituelles, mais il faut aussi comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que le modèle ne marchant plus, d'autres modèles prennent la place, hein, avec des gens qui manipulent.
Ça, c'est naturel.
C'est naturel, ça a toujours existé. Et moi, j'explique très bien dans le livre, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais ce que je dis dans le livre, et je reprends Ferdinand Tognies, dont on parlait tout à l'heure, c'est que ça a été ça dans le nazisme. Ça a été ça. C'est-à-dire le fait que des jeunes de 19-20 ans, parce qu'ils avaient 10-20 ans, dans la division Das Reich, qui a tué l'ensemble quasi des habitants de Oradour-sur-Glane, c'était des jeunes de 19-20 ans, et des malgré nous, de jeunes Alsaciens, donc des frères finalement, hein, qui n'ont pas hésité à tuer. Eh bien, en fait, ce qui se passe, ce que dit ce sociologue, c'est très intéressant, c'est que la nature des liens sociaux, elle est très particulière. Et que, en fait, lorsqu'il s'agit de liens très intimes, on peut faire ce qu'on veut des hommes qu'on a en main. Il parle donc de la Gemeinschaft.
Gemeinschaft et Gesellschaft.
Exactement.
C'est deux oppositions.
Ce sont deux oppositions. Et la Gemeinschaft, en fait, ça s'appuie sur un ressenti subjectif, sur quelque chose d'affectif, de traditionnel. Et c'est ce sur quoi jouent ceux qui manipulent ces jeunes gens.
Donc c'est la communauté.
C'est une forme de communauté. Ça veut dire communauté. Et il distingue, en fait, de la Gesellschaft, qui est qu'on peut traduire par société, dans laquelle les relations sont d'ordre rationnel, attenant à la raison, et où justement sont introduits des principes de droit, de compréhension du monde, de distance. Et là, donc, on est dans la première, dans ces cas de figure, on est dans cette situation-là. C'est exactement, et j'explique dans le livre...
Loi de la communauté contre loi de la société.
Ce qu'il se passe là peut ressembler à ça. C'est très intéressant. C'est très intéressant.
Alors, est-ce que peut, Marie-Pierre Samitier, est-ce qu'on peut dire, parce que vous parlez à un moment de certaines personnes qui se sont engagées, alors on revient à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, on y reviendra aussi après 8 heures, en particulier à un ancien SS qui est devenu frère S à la Pierre qui vire.
Oui, on ne dira pas son nom.
Qui s'est opposé à frère Pierre, qui lui était dans la résistance. Est-ce qu'on peut raconter cette histoire des deux moines qui avaient choisi deux camps différents?
Oui, parce que finalement, on est toujours dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce que je dis dans mon livre. On est quand même toujours dans cette Deuxième Guerre mondiale. Et on reste avec des souvenirs. Il faut savoir que la France a été quand même coupée en deux. Hein. Et donc, d'un côté, les résistants et de l'autre, ceux qui avaient adhéré au système nazi. Cette histoire-là...
Minoritaire quand même, minoritaire.
Très minoritaire, ouais. il faut le dire. Et donc, effectivement, ce frère, moine, a manqué être condamné à mort. Et lorsqu'il a été gracié, en 1945, il a donc décidé d'entrer dans les ordres. Alors,
N'était pas moine avant. Hein.
Il n'était pas moine avant, c'est après. Hein. Mmh. C'est après. Et donc, il s'est retrouvé dans un monastère où étaient de nombreux anciens résistants auxquels il était confronté. Alors, en entrant... un psychanalyste, Gérard Haddad, me dit, et je le cite d'ailleurs dans le livre, « Oui, mais il est entré... » Un psychanalyste, donc, qui s'intéresse à la question. « Oui, mais tout est pardonné, il est entré au monastère. »
On va rester sur cette notion, parce que ce n'est pas sans poser problème, cette question du pardon, à partir de cet échange entre les deux moines sur les questions liées au pardon. Marie-Pierre Samitier, juste après les infos, Gérard Leclerc.
Le monde vu de Rome, c'est tous les jours sur Radio Notre-Dame.
8h30, 18h,
le journal de Radio Vatican.
L'armée américaine n'envisage pas d'intensifier les raids aériens.
19h30,
le magazine.
Sœur Anan était en France ces derniers jours pour témoigner de la détresse.
Minuit 30,
l'actualité de l'Afrique.
Rendez-vous avec l'Afrique.
L'actualité de toute l'Église,
c'est tous les jours sur Radio Notre-Dame.
Histoire d'en parler.
Le XXe siècle, l'ère des guerres mondiales, des totalitarismes, des génocides, et pourtant, la France a rarement connu une telle vitalité chrétienne qui illustre les noms de Maritain, Claudel, Bergson, Mauriac, Bernanos et bien d'autres. Je vous invite donc à franchir avec moi la porte étroite d'où fuse la lumière de l'espérance.
Histoire d'en parler avec Jean-Paul Clément, tous les lundis à 20h25 et le dimanche à 10h15.
Chantal Bally écoute dans la nuit. Je vous emmène chaque soir avec mes invités du mardi au vendredi dans un voyage de 2 heures au souffle de l'esprit pour réveiller l'espérance et être ensemble des inaugurateurs d'aurore. Alors, hissons les voiles, le vent va souffler.
Écoute dans la nuit avec Chantal Bally du mardi au vendredi à 22h sur Radio Notre-Dame. La minute spirituelle. Cette semaine, Patrice Cavelier, diacre à Saint-Eustache, Paris.
Est-ce que j'écoute vraiment quand on me parle? Si le chrétien doit bien avoir une qualité propre, c'est celle de la totale présence avec celui avec qui je parle, avec qui je discute, qui me livre des informations, qui me donne ses préoccupations comme ses joies. Alors, comment être authentique avec l'autre si je n'ai pas tout avec lui au moment où il partage ce qu'il partage avec moi, ce qui fait sa joie ou ce qu'il a mis dans la peine? Il nous faut alors vraiment tout abandonner pour être tout avec lui, pour entrer dans une relation de total partage, pour faire corps avec lui. Il ne s'agit pas, bien évidemment, de discuter. Il s'agit, non, de prêter une oreille attentive, bienveillante et sincère. Ce que nous demandent nos frères, nous pourrions nous en étonner, c'est davantage une oreille qu'un discours. Seigneur, apprends-moi à être présent en vérité à tous ceux que tu mets sur ma route aujourd'hui, comme si c'était toi qui venais à ma rencontre.
Merci Patrice Cavelier. 7h59, on vous retrouve juste après les infos, Louis, avec votre invité.
Oui, la question du pardon est vraiment chose délicate. Ce n'est pas quelque chose qui va de soi. En écho au génocide arménien, 100e anniversaire, si je puis dire. Et puis en écho au procès d'Oscar Gröning, Marie-Pierre Samitier, bourreau et survivant, faut-il tout pardonner? C'est aux éditions Le Mieux. Elle est journaliste à France 2 et elle s'est penchée sur cette question du pardon avec toutes les nuances et toutes les explications que cela requiert. Il est 8h, on va faire un point avec Delphine Fraissinet, suivi de l'édito de Gérard Leclerc.
Bonjour à tous. Ne pas céder à la panique. C'est l'appel lancé par la conférence des évêques de France aux catholiques après la révélation qu'un projet d'attentat visait deux églises à Villejuif, en banlieue parisienne. C'est la première fois que les chrétiens sont ainsi visés sur le sol français. Dans ce contexte, Manuel Valls estime qu'aller à la messe est la plus belle des réponses. Quant à la protection renforcée des lieux de culte catholique, promise aussitôt par Bernard Cazeneuve, la conférence épiscopale la juge prématurée. Celui qui visait les deux églises de Villejuif, Sid Ahmed Glam, a été interpellé dimanche. Il est toujours en garde à vue et pourrait y rester jusqu'à demain ou samedi, soit 6 jours d'affilée comme c'est prévu dans les cas de terrorisme. Cet étudiant franco-algérien de 24 ans était connu des services de renseignement pour des velléités de départ en Syrie. Des armes de guerre ont été saisies dans sa voiture, à son domicile. L'examen de son ordinateur a confirmé qu'il recevait des ordres d'une personne qui pourrait être en Syrie. Reste à identifier cette personne. Glam est aussi soupçonné d'avoir assassiné le matin même de son projet Aurélie Châtelain. Une marche blanche en mémoire de la jeune femme aura lieu dimanche à Caudry, dans le nord où elle vivait. François Hollande appelle l'Indonésie à la clémence pour que Serge Atlaoui ne soit pas exécuté. Le pays s'est jusqu'à présent montré inflexible sur la question des trafics de drogue. Emprisonné pour cela depuis 10 ans à Jakarta, Serge Atlaoui a toujours clamé son innocence. Sa femme Sabine appelle à une mobilisation énorme pour le sauver. Deux rassemblements de soutien à Paris et à Metz, sa ville d'origine, sont organisés samedi. À la une de l'actualité, la question des migrants au sommet extraordinaire européen à Bruxelles, réuni à la dernière minute après le choc de ce week-end, 800 morts en Méditerranée. Il vise tout à la fois à renforcer la surveillance en mer et à protéger les migrants. Ce sommet pourrait aussi donner le feu vert à une opération militaire contre les réseaux de passeurs en Libye. La Libye, véritable plaque tournante du trafic d'êtres humains. Ce trafic d'êtres humains, il en sera question lors d'un sommet au Vatican mardi prochain. Sommet qui réunira les leaders religieux. Le pape y a également convié Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies. François qui a dénoncé hier la perte sociale que constitue la dévaluation du couple homme-femme, qu'il qualifie de chef-d'œuvre de Dieu. Il s'agit d'une nouvelle invitation très claire à défendre le mariage et la famille catholique. Le mariage pour tous en France n'est donc pas passé. On comprend mieux pourquoi le pape refuse l'ambassadeur homosexuel Laurent Stefanini proposé par Paris au Saint-Siège. Elle est plutôt bien dans son assiette, la gastronomie française. Hélène Darroze a été sacrée meilleure femme chef du monde. La chef triplement étoilée a remporté le concours organisé par la maison de champagne Veuve Clicquot.
Radio Notre-Dame.
À 8h03, Gérard Leclerc, son édito.
L'arrestation d'un jeune homme soupçonné de préparer un attentat contre une ou deux églises a provoqué hier une légitime émotion. On ne peut douter de la détermination d'un terroriste qui tue froidement une jeune femme pour s'emparer de sa voiture et qui est par ailleurs détenteur d'un impressionnant arsenal. Savoir qu'il était en lien direct avec la Syrie oblige à évaluer une fois de plus le caractère particulier de réseaux qui fonctionnent à la fois de façon indépendante et solidaire avec des organisations de vaste ampleur. Après les gens de Charlie Hebdo, après la communauté juive, il ne fait pas de doute que les chrétiens sont également visés, ce qui n'étonne pas si l'on a en tête ce qui se passe notamment au Proche-Orient. Nous sommes face à une entreprise d'éradication terriblement efficace, qui a d'ores et déjà largement atteint ses objectifs avec l'élimination des plus anciennes églises de la chrétienté. Je voudrais simplement rappeler que l'Église catholique notamment a tout fait pour éviter une guerre des religions, appelée également guerre des civilisations. Et il convient sur ce point de rendre hommage à Jean-Paul II, qui avait résisté à peu près seul à l'engagement provoqué par les Américains lors de la première guerre du Golfe. Il y avait pourtant des désaccords parmi les chrétiens et au sein même de la hiérarchie. Le pape savait, lui, les dégâts irrémédiables d'un conflit armé qui risque de briser de fragiles équilibres au prix d'une déstabilisation aux effets dévastateurs. On ne peut écarter le soupçon que l'engrenage de l'extrême violence a suscité en réponse l'essor du djihadisme avec ses dimensions internationales. Il est bien difficile dans ces conditions d'envisager la parade à un phénomène aux multiples déclinaisons. Comment agir efficacement en Irak et en Syrie pour sauver ce qui peut l'être ? En France même, il ne s'agit pas de céder à la panique tout en prenant toutes les mesures nécessaires. Contre le terrorisme, ce n'est pas la guerre totale qu'il faut préconiser, mais la possibilité d'une paix civile qui permettrait de stopper une offensive qui voudrait précisément susciter la montée aux extrêmes.
Merci beaucoup Gérard Leclerc. 8h05 sur Radio Notre-Dame. On vous retrouve, Louis Dauphren, avec votre invité.
Marie-Pierre Samitier, journaliste à France 2. Bourreau et survivant, faut-il tout pardonner ? Cette édition Le Mieux. Marie-Pierre Samitier, en écho au procès Oscar Gröning en Allemagne, l'ancien comptable du camp d'Auschwitz, en écho également au génocide arménien. François Hollande est attendu demain à Erevan pour les commémorations du centenaire, l'occasion d'une nouvelle rencontre avec Vladimir Poutine sur la question de la crise ukrainienne. Donc il y a bien une guerre, là aussi la question du pardon se pose, même si dans l'immédiat c'est difficile de la concevoir. La guerre aussi face au terrorisme avec cet attentat déjoué dont parlait à l'instant Gérard Leclerc. Alors j'aimerais simplement qu'on continue d'abord ce que vous avez dit tout à l'heure, avec la rencontre au monastère entre deux moines, l'un dans la résistance, l'autre qui avait été SS et qui est devenu moine, et qui se sont mis sur la figure, si on peut dire, à l'occasion d'une discussion assez rude entre eux. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon, cela, Marie-Pierre Samitier, entre le moine résistant et le moine SS?
La conclusion qu'on peut tirer,
enfin,
c'est qu'il y a...
Ex, parce que c'est compliqué, oui. Hein, je ne veux pas coller les deux étiquettes.
Ex, exactement. Non, c'est qu'il y a... D'abord, il y a eu rémission, mais ce qu'il se passe, c'est que ce qu'on peut tirer comme conclusion, c'est que les hommes n'en finissent pas de s'affronter sur cette question des valeurs, et que la question du pardon s'est posée pour ce frère qui est entré au monastère et qui, je le disais, finalement, a agi autrement. C'était une forme de pardon. C'est-à-dire, il n'a pas décidé de continuer à être sûr coûte d'avoir de s'engager en Allemagne. Cependant, il était persuadé d'avoir eu raison. Donc, c'est très complexe. C'est très complexe parce que il entre au monastère et ce que je disais, c'est que ce psychanalyste Gérard Haddad a dit oui, mais alors tout est pardonné. Et d'un autre côté, il continue de se battre avec les autres frères qui, eux, sont d'anciens résistants, en racontant malgré tout que à l'époque il avait eu raison, parce que et c'est ça qui est intéressant, il dit on était comme de jeunes loups en meute. C'était une vie ensemble. Ils ont fait ensemble la campagne de Poméranie. Il avait été enrôlé à l'âge de 18 ans.
Enrôlé, donc pas volontaire. Si
là-dessus, je ne sais pas précisément. Mais en tout cas, je crois qu'il avait été enrôlé. Parti donc sur le front de l'Est. Et c'est là que les amitiés se forment, que ces jeunes gens, par imitation, vivent les mêmes choses. Ils parlent de se rouler dans la neige avec ses frères loups, de ce plaisir du feu au combat,
les amitiés viriles,
ces amitiés viriles dont parlent très bien certains écrivains, voilà, Drieux La Rochelle et d'autres dont nous pourrions parler. Mais donc ce n'est pas un repenti pour au sens général, mais pour ses frères, pour ses frères moines, il était tout de même repenti. En devenant moine, il avait fait repentance. Vous voyez, c'est très subtil, c'est très subjectif. Cependant, il dit, et ça, ça a été retracé par d'autres frères qui sont toujours en vie, que il voulait le faire, qu'il ne regrette pas ce qu'il a fait.
Ça, c'est comme Henri Fenet, d'ailleurs, dont vous parlez.
Exactement. Hein, Henri Fenet, qui était Charlemagne, et qui
l'un des derniers défenseurs du bunker.
L'un des derniers défenseurs du bunker. Je raconte ça dans le livre. C'est vrai que c'est impressionnant de voir qu'ils sont à peine 300 à la fin. On est au dernier jour de la vie d'Hitler. On est devant le bunker. On est
la semaine prochaine, la commémoration.
Voilà, exactement. Le 30 avril 45. On est le 29, le 30 avril. On est dans Berlin. Tout est détruit. Il reste de ci, de là, quelques lieux, quelques foyers de combat, dont justement Henri Fenet et quelques hommes, à peine 300 de cette fameuse division Charlemagne, et dont ce frère moine hein, qui est resté jusqu'au bout, qui a perdu un œil devant le bunker d'Hitler. Et ils font combat pour que le bunker d'Hitler ne tombe pas aux mains des Soviétiques le 1er mai, jour de l'international, et pour que ce Saint-Brest encore entre leurs mains. Mais donc alors, c'est une conviction profonde. Il faut comprendre ces mécanismes-là qui conduisent à se détruire, à vouloir mourir pour une cause. Ça, c'est incroyable.
Mais est-ce que, Marie-Pierre Samitier, est-ce que vous mettez sur le même plan, par exemple, Oskar Gröning, qui était comptable du camp d'Auschwitz, qui témoigne un procès qui lui est fait en Allemagne, et des personnes qui se sont engagées ou qui ont été enrôlées dans des unités combattantes qui ont livré un combat sur le front. C'est la même chose.
Alors c'est toute l'appréciation d'ailleurs des juges en Allemagne pendant des années qui justement n'ont pas voulu se trancher certaines affaires parce qu'il n'y avait pas de lien direct entre la mort des personnes
Quand vous tuez sur le front, ce n'est pas la même chose que dans le système concentrationnaire.
Alors, c'est deux choses différentes, parce qu'il y a effectivement la Wehrmacht, l'armée régulière, et puis les SS, hommes formés au combat, de façon particulière, et qui cherchent la mort et qui veulent tuer, mais au combat. Et puis, l'univers concentrationnaire, c'est-à-dire l'organisation et l'industrialisation de la mort.
Donc, vous tinguez les deux choses ou pas ?
Est-ce que, pour moi, non ? Parce que c'est la volonté de tuer et que ça fait partie du génocide, de cette décision d'aller jusqu'au bout de l'éradication d'un peuple
entier. Donc il aurait fallu juger les 2 millions de personnes qui ont été dans les SS, dans les Waffen-SS.
Pour moi, il n'y en a pas, parce que quand on voit les jeunes Allemands tirer sur, notamment sur le front de l'Est, sur des femmes et des enfants dans le dos, effectivement, pour moi, il n'y a pas de différence. La responsabilité est là, même si c'est pas l'univers concentrationnaire, c'est le même principe.
Donc le moine repenti, même repenti, est-ce qu'il aurait fallu le juger ?
Alors, il a été jugé et gracié puisqu'il est entré dans les ordres. Mais
oui, jugé à votre façon, j'entends.
À la façon, en tout cas, des juges aujourd'hui, et des juges allemands, par exemple, certes. Moi, je pense que oui.
Parce que la justice allemande a beaucoup évolué. Hein.
Alors, justement,
Assez
tardivement, ça c'est ce que j'explique dans le livre. Pendant des années, la justice allemande, comme toute la société allemande, a décidé donc de fermer les yeux. Donc, la justice allemande a toujours eu un principe de jurisprudence jusqu'en 2011, qui était que tant que la preuve n'était pas faite de la mort directe, de l'incidence, donc sur la mort directe de personne, eh bien, les prévenus ne seraient pas condamnés. Les anciens SS ou anciens nazis ne seraient pas condamnés. Et jusqu'en 2011, où là, pour la première fois, les tribunaux allemands, en jugeant...
Demaniuk,
exactement.
Qui n'est pas allemand, hein, qui est ukrainien.
Qui est ukrainien, mais qui était gardien au camp de Sobibor, à ce moment-là, donc, décide de le condamner. Et il se base, en fait, pour la première fois, sur son rôle général. Donc, effectivement, il n'y a pas de sa part d'acte criminel direct, mais en fait, il n'y a pas d'acte précis, mais c'est pour sa participation au génocide. Et ça, c'est une première. Ça se passe en 2011. Et aujourd'hui, le procès de Gröning, c'est dans cette mouvance-là, sans doute, une volonté des tribunaux allemands d'aller jusqu'au bout de décisions qui n'avaient pas été prises jusque-là dans les deux Allemagnes.
Ça veut dire, Marie-Pierre Samitier, qu'on va continuer à rechercher d'anciens nazis, même si aujourd'hui ils arrivent à un âge extrêmement avancé, pour en quelque sorte étendre les possibilités d'inculpation.
Oui, c'est exactement ça. C'est un dispositif qui est en cours et qui fait qu'il reste, moi je dis quelques nagénaires, plus beaucoup, mais que par principe, et au nom en fait de l'exemplarité de la peine, eh bien, ils seront jugés. En tout cas, ils sont recherchés et il y aura des procès, effectivement.
Alors, à la question, faut-il tout pardonner ? Est-ce que vous pouvez revenir quand même sur le mécanisme du pardon ? Parce que tout à l'heure, vous avez expliqué à la lumière de la Teshuvah la conception juive du pardon, dont vous estimez qu'elle est différente de la conception chrétienne, dans le sens où la dernière étape, il y a trois étapes, et la dernière, c'est la repentance. Mais on a bien eu la repentance en 95 avec Jacques Chirac, par exemple. C'est bien une notion qui fait écho à ce que vous dites.
Oui, mais c'était une repentance publique et politique.
C'est ça, c'est bien la repentance publique dont vous parlez. Question de la bête dont vous avez parlé, qu'on sacrifie le sang qui jaillit, c'est bien public.
Absolument, mais il y a aussi le pardon qui est de l'ordre de l'intime. Et ça, c'est une autre notion qui est dans le judaïsme et qui correspond en fait au pardon que l'on fait auprès de l'autre, et non pas de façon générale, c'est-à-dire visage contre visage, selon l'expression d'Emmanuel Lévinas, panim at panim, c'est-à-dire le fait qu'on demande à celui à qui on a fait du mal, pardon. C'est une notion intime, ce n'est pas d'ordre général, ce n'est pas politique.
Ce n'est pas à Dieu qu'on demande pardon ?
À ce moment-là, non, c'est à l'homme, à l'autre, à celui à qui on a causé du mal. Ça, c'est quelque chose, justement, qui est très particulier. Il y a ces deux notions-là, et ce ne sont pas les mêmes. Le pardon public, il correspond au pardon politique. C'est celui d'Angela Merkel, finalement, aussi, aujourd'hui, qui a d'ailleurs eu des positions très tranchées contre l'antisémitisme en Allemagne. Ce sont des positions politiques, publiques, et qui font qu'on a une attitude différente, une attitude qui prouve la repentance.
Ce pardon intime, Marie-Pierre Samitier, ne se décrète pas. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à demander pardon yeux dans les yeux, surtout si certains, comme c'est le cas d'Henri Fenet ou le cas, je ne sais pas si vous avez parlé aussi du cas d'Einsbart de la division d'Asreich, d'Oradour.
Absolument.
S'il ne regrette pas intimement ce qu'il a fait, vous restez dans une sorte de vide, vous êtes suspendu dans un vide.
C'est tout à fait juste. Barthes, d'ailleurs, dit dans le procès dans lequel il a été gracié qu'il ne regrette rien de ce qu'il a fait.
Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Que font les victimes ?
Je veux revenir sur ce qu'on disait sur le pardon intime. Ça, c'est un point très important parce que c'est une démarche liée à la temporalité et aux fameuses étapes dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des jours pendant lesquels, justement, on se repent, on demande pardon à Dieu, ces fameux jours redoutables dans le judaïsme et qui arrivent au jour de Kippour, où on demande pardon à Dieu. Mais il y a le pardon d'homme à homme, où un bourreau dit, moi, j'ai commis une faute envers toi, j'ai tué toute ta famille, tu étais une petite fille, je t'ai déportée, voilà, je te demande pardon. Effectivement, on ne peut pas demander à tous les ex-nazis, à tous les ex-gardiens de camp de venir demander pardon, mais pour ceux qui sont encore en vie et qui pourraient le faire, effectivement, retrouver d'autres personnes, des personnes qui ont été victimes, ou en tout cas exprimer un pardon, c'est important parce que c'est personnel.
Important pour qui ? Pour la victime ?
C'est important pour la victime. C'est parce que c'est de l'ordre de la personne. Et je cite une phrase de la philosophe de Simone Veil qui dit il ne faut pas, en fait, le vrai danger, c'est cette banalisation de la Shoah, c'est aussi ce pardon collectif où tout le monde est victime, où tout le monde est coupable. Et en conséquence, personne ne l'est. Et c'est ça que ça veut dire. C'est que le pardon, c'est toujours une personne qui demande à l'autre ce pardon.
Donc vous n'êtes pas pour la culpabilité collective des Allemands, par exemple ?
Non, je l'explique dans le livre, d'ailleurs. Mmh. Je dis, il doit y avoir... le peuple allemand doit rester vigilant, parce que ce qui s'est passé n'est pas un hasard. C'est le pays de Heidegger. Moi, je suis les conclusions d'Emmanuel Faye sur sa position sur Heidegger et l'introduction du nazisme dans la philosophie. C'est le titre de son livre, d'ailleurs, que tout le monde a lu. Je pense que, toutefois...
J'en suis pas sûr que tout le monde l'ait lu.
Toutefois, je pense que... Non, c'est très important. Les jeunes Allemands n'ont pas apporté, et je l'explique, à travers notamment un témoignage d'un jeune Allemand que j'ai longuement interviewé, qui s'appelle Patrick Pulsfort, qui est de Hambourg, qui fait partie de l'OFAGE, un organisme de jeunes étudiants allemands. Il a 17-18 ans. Il représente toute une génération qui est une sorte de génération perdue. Ils n'ont pas apporté une culpabilité. Ce sont des enfants qui ont 18-19 ans, 20 ans aujourd'hui, qui disent avoir honte d'être allemand. Alors je le développe dans le livre et c'est très intéressant. Il y a des passages qui expliquent parfaitement cette mentalité.
Et vous leur dites, non, il ne faut pas avoir honte.
Eh bien, effectivement, il ne faut pas avoir honte. Parce que aujourd'hui, il faut avoir conscience, en revanche, de ce que l'on est, d'où on vient, et comprendre vers où on va et ce que l'on veut. C'est par le passé, la compréhension du passé, qu'on peut être fort pour l'avenir, ne pas avoir honte, mais au contraire, assumer et dire maintenant, je veux changer, je veux autre chose. En tout cas, ce ne sera pas notre vie. Voilà.
Ça fait 50 ans, ou plus même, 70 maintenant, que l'Allemagne a quand même tourné la page.
Elle a tourné la page, mais on vit toujours comme ça en Allemagne. Et non, je ne suis pas comme d'accord. Ça. On ne vit pas, on n'a pas tourné la page. Aujourd'hui, il y a moult documentaires qui passent sur les antennes, c'est expliqué dans le livre. Les Allemands vivent tout le temps avec des films sur la Deuxième Guerre mondiale, avec l'histoire du nazisme en permanence, au point d'une saturation que tous les jeunes exprime un rejet total qui pourrait arriver d'ailleurs à l'effet inverse. C'est exactement ça.
On pourrait vous mettre en débat, Marie-Pierre Samitier, avec Jean-Louis Vuillerme. Le nazisme n'est pas irrationnel. Il écrit un ouvrage tout à fait intéressant là-dessus, Miroir de l'Occident, pour montrer que ce n'est pas un cas allemand, mais qu'au contraire, le nazisme est la synthèse d'idées qui avaient lieu dans le monde anglo-saxon, qui avaient cours dans le monde anglo-saxon, sur la question raciale, par exemple. Hitler s'est notamment inspiré du savant américain Madison Grant, etc. Et donc, le nazisme est la quintessence d'un certain nombre d'idées qui avaient cours dans le milieu anglo-saxon ou le milieu même français sous la Troisième République, qui il est donc la représentation d'idées modernes pour l'époque et qui n'est pas l'expression d'une singularité nationale.
Oui, c'est toutes les théories raciales qui, effectivement, ont précédé le nazisme. On est bien d'accord. C'est le fruit aussi d'une histoire intellectuelle au sein de l'Europe, d'un mouvement intellectuel au sein de l'Europe. Il y a toujours eu...
Donc il y a une responsabilité partagée.
Effectivement, il y a une responsabilité partagée. Mais il n'empêche que le nazisme a été un mouvement politique, le national-socialisme a été un mouvement politique allemand. Et non français ni anglais. Donc, c'est une spécificité. Moi, je peux débattre avec lui là-dessus. C'est une spécificité allemande particulière qui ne fait pas qu'on va incriminer aujourd'hui les Allemands qui portent cette histoire, mais qui fait qu'il faut avoir conscience de cela, bien lire ce qu'écrit Heidegger, bien lire et comprendre ce qu'il porte, notamment dans les Cahiers noirs qui sont parus il y a 2 ans, pour avoir une idée de ce qu'est, d'un côté, l'antisémitisme historial et de l'autre, l'antisémitisme et la décision du génocide allemand.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas le fait, je vais faire un raccourci, mais finalement, les Allemands ont eu la malchance de se retrouver dans le camp du perdant. Mais les Américains qui ont été vainqueurs de cette guerre ont commis aussi des crimes de masse, des bombardements massifs épouvantables. Les Soviétiques n'ont demandé pardon à personne alors qu'il y a des dizaines de millions de morts du régime communiste. Qu'est-ce qu'on fait de ça, la bombe atomique propulsée sur Hiroshima et Nagasaki? Aucun président américain ne s'est jamais rendu à Hiroshima ni à Nagasaki, au passage de villes catholiques. Qu'est-ce qu'on fait de ça?
Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? Déjà, on a fait beaucoup, puisque alors, on n'a pas tranché entièrement sur ces questions-là aujourd'hui. On n'a pas, l'ONU n'a pas obtenu finalement que les États-Unis fassent acte de repentance sur ces points-là, c'est certain. Mais on n'est pas dans le même cas de figure que les génocides. Ce sont des points d'attaque particuliers. Un génocide, ça a été défini.
Oui, c'était pour libérer, j'entends bien. C'est l'intention.
C'est
mais
une intention.
Vous avez des gens qui meurent quand même.
Il y a des gens qui meurent absolument et de toute façon, c'était effectivement des points extrêmement importants à soulever sur la façon dont les États assument ensuite politiquement leurs actes. Donc il y a tout à attendre effectivement. Mais on n'est pas dans le même cas de figure malgré tout. J'insiste, les génocides, un génocide c'est très particulier. Je reprends le texte de droit qui est l'aboutissement d'un débat international qui vient de la Convention des Nations Unies de 1948 du 9 décembre et qui dit que le génocide est un acte commis dans l'intention de détruire ou tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux, entièrement, intégralement. C'est une volonté d'éradication. Donc on n'est pas dans le même cas de figure. Là, on est dans des attaques ponctuelles. Ça n'est pas la même chose. Il faut être très précis là-dessus. Effectivement, pour les Soviétiques, il y a eu des actes criminels de masse. Un nombre de morts estimé entre 6 et 8 millions sous Staline, qui est très important, de déportés vers le goulag. Mais on n'est pas sur ce point de droit.
Mais du coup, il n'y a personne pour les défendre.
Absolument, mais aujourd'hui...
Enfin, pour défendre les victimes, j'entends.
Oui, bien entendu. Mais aujourd'hui, c'est toute la question de la façon dont on dit l'histoire. C'est-à-dire qu'on s'empare de l'histoire. L'histoire, c'est quoi? Ce sont des événements mais que l'on va commenter et dont on va tirer les conséquences pour l'avenir et que l'on va raconter. Ce sont des histoires l'histoire, c'est un ensemble d'histoires qu'on raconte et dont les générations
actuelles
et futures...
Pour peu qu'on la raconte encore.
Pour justement, voilà, d'où l'importance de la mémoire et dont les générations futures ont besoin pour se rappeler ce qu'a été le communisme dans les pays de l'Est.
Quelle est votre analyse, Marie-Pierre Samitier, du génocide arménien 100 ans après? Alors on parle souvent de la concurrence, des mémoires, des postures victimaires, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que on doit se... Enfin, que doit dire François Hollande demain, par exemple?
La question, d'ailleurs, posture victimaire, est-ce qu'un État qui avoue avoir commis un génocide est un État faible? Moi, je ne crois pas que quelqu'un... là, je parle de la personne qui avoue avoir une faiblesse, est faible. Au contraire, je pense qu'elle est plus forte parce qu'elle a conscience de ce qu'elle est. C'est une question de la conscience et de la responsabilité au sens arendtien, au sens où Hannah Arendt l'entend. C'est-à-dire la conscience de ses actes, de ce que l'on fait et être capable de dire non, d'avoir un noyau de résistance, de dire non. Alors, concernant donc cette position et cette posture victimaire, moi je crois que c'est un refus politique pour s'affirmer par rapport à des États voisins particulièrement belliqueux, pour ce qui concerne la Turquie par exemple, c'est peut-être aussi une marque de faiblesse justement et non de force. Voilà, ça c'est mon analyse. En tout cas, le génocide arménien dont les commémorations ont lieu donc demain est un génocide dont on a aussi beaucoup parlé et dont il faut prendre conscience alors que aujourd'hui se profile des guerres dans cette région-là. Je parle de la Turquie où il y a eu des déplacements de populations chrétiennes importants. Il faut comprendre ce qu'il se passe aujourd'hui dans ces pays-là et ne pas baisser la garde sur la conscience politique que l'on peut avoir.
Eh bien, on restera sur ces dernières paroles. Marie-Pierre Samitier, journaliste à France de Bourreau et survivant, faut-il tout pardonner? C'est aux éditions Le Mieux. Merci d'avoir été avec nous pour nous aider à mieux comprendre cette notion du pardon. À bientôt, Marie-Pierre Samitier.
À bientôt.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.